Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
L'heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 7 avril 2026, il est un peu moins de 6h avant minuit, désolé. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab. Ce soir, pour vous servir, comme vous l'entendez, ce n'est pas Héloïse et sa team, la rédaction est en partie à la chasse aux œufs. Mais je vous promets, ça va quand même être super. Je passe d'ailleurs le bonjour ou bonsoir, comme vous préférez, à nos auditeuristes de Rennes, bien évidemment, mais aussi à celles du reste de la Bretagne qui nous écoutent sur Radio Boa. Pour commencer cette émission, un chouette jeu concours en ligne. Syllab vous offre une place pour le concert de Bonne Nuit NTO et LB AK Labatt, vendredi 10 avril à 21h au Cabaret Botanique. C'est un concert qui se passe dans le cadre du festival Mythos. Pour jouer, vous aurez besoin d'un mot de passe, mélatonine. Pour jouer donc et gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash d'Anaï.
Depuis le 3 avril, les tensions entre les États-Unis et l'Iran sortent de l'actualité après qu'un avion de chasse américain ait été abattu au-dessus du territoire iranien suite au conflit qui subsiste. Étaient présents à bord de cet avion deux soldats américains ayant réussi à s'éjecter à temps. Le premier a été secouru rapidement. Après plus de 36 heures de recherche intensive, le deuxième a quant à lui été retrouvé vivant, mais blessé. Extrait par les forces de l'ordre américaines, le pilote a été transporté dans un centre médical en dehors de l'Iran. Une menace d'une ampleur exceptionnelle plane sur le Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum choc à l'Iran, évoquant la destruction du pays en une seule nuit en cas de refus d'un cessez-le-feu. À quelques heures de l'échéance, la tension est à son comble entre frappes déjà en cours, échec des négociations et risque d'escalade majeure.
La situation internationale connaît une montée de tensions particulièrement inquiétante. Entre les États-Unis et l'Iran, le président américain Donald Trump a adressé ce lundi un ultimatum à Téhéran exigeant l'acceptation d'un accord de cessez-le-feu dans le conflit en cours au Moyen-Orient. Cet avertissement, autant exceptionnellement grave, s'accompagne d'une échéance précise fixée à mercredi à 2h du matin de Paris. Passé ce délai, Washington envisage une intervention militaire de grande ampleur. Dans cette déclaration, Donald Trump a évoqué la possibilité de, je cite, « détruire le pays en une seule nuit », visant notamment les infrastructures essentielles de l'Iran, telles que les centrales énergétiques, les ponts et les réseaux de transport. Cette posture offensive s'inscrit dans un contexte où les États-Unis cherchent également à obtenir la réouverture du détroit d'Hormuz, un point stratégique crucial pour l'approvisionnement mondial en pétrole. Le président américain a par ailleurs minimisé les risques de violation du droit international, estimant que l'enjeu principal demeure l'empêchement de l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Face à ces menaces, les autorités iraniennes ont fermement réagi. Elles dénoncent une rhétorique arrogante et affirment que ces déclarations n'auront aucun impact sur leur position. À l'échelle internationale, l'ambassadeur iranien auprès de l'Organisation des Nations Unies a interpellé le secrétaire général Antonio Guterres, soulignant que de telles menaces pourraient compromettre gravement le respect du droit international et aggraver les tensions dans toute la région. Sur le terrain, la situation reste déjà très instable. Des explosions ont été signalées à Téhéran et dans ses environs, tandis que plusieurs infrastructures, notamment des ponts et des voies de communication, ont été endommagées lors de frappes attribuées à l'armée israélienne. Ces événements témoignent d'une indice d'escalade progressive du conflit, rendant l'issue diplomatique de plus en plus incertaine. Les tentatives de médiation internationale n'ont pour l'instant pas abouti. Plusieurs pays avaient proposé un cessez-le-feu temporaire afin de permettre l'ouverture des négociations, mais cette initiative a été rejetée. L'Iran exige notamment la fin des hostilités, la levée des sanctions et des garanties de sécurité. En contrepartie, se dit prêt à rouvrir le détroit d'Hormuz sous certaines conditions économiques, une proposition jugée insuffisante par Washington. Ainsi, à mesure que l'échéance approche, l'inquiétude grandit quant à une possible escalade militaire majeure. Malgré quelques déclarations optimistes du vice-président J.D. Vance, qui a fait savoir que les États-Unis n'envisageaient pas l'usage de l'arme nucléaire, la région semble du moins au bord du basculement. Les prochaines heures sont décisives et pourraient déterminer si la voie diplomatique l'emporte ou si le conflit s'intensifie avec des conséquences potentiellement dramatiques pour le Moyen-Orient et le reste du monde.
Merci Ulrich pour ton papier. Aujourd'hui se déroulait la Journée mondiale de la santé, rappelle que l'accès aux soins est un droit fondamental. Selon l'UNICEF, chaque jour, des milliers d'enfants de moins de 5 ans meurent encore et plus de 260 000 femmes perdent la vie pendant la grossesse ou l'accouchement, surtout dans les régions pauvres. En Afghanistan, l'UNICEF soutient plus de 67% des établissements de santé et près de 28 000 soignants pour garantir vaccination, nutrition et soins maternels. Une journée mettant en lumière les inégalités persistantes et l'urgence d'un accès équitable aux soins dans le monde. Des campagnes de vaccination, de dépistage et de sensibilisation ont été organisées dans plusieurs pays pour promouvoir l'accès aux soins et réduire les inégalités. Petit coup de frein dans la flambée du carburant. À la veille du week-end de Pâques, Total Energy a annoncé le plafonnement du prix de l'essence à 1,99€ le litre et à 2,09€ pour le diesel. Une mesure que l'entreprise a annoncé maintenir, et ce bien que 66% des stations du groupe soient en rupture temporaire d'au moins un carburant. D'après les chiffres du ministère de l'Énergie, la CGT appelle quant à elle au plafonnement du prix de l'essence et du diesel à 1,70€ le litre pour soulager les professions les plus touchées. Une rencontre est prévue ce soir à Bercy entre syndicats et gouvernement pour discuter de ces mesures. Triste nouvelle dans le Pas-de-Calais. Ce matin à 7h à Bully-les-Mines, un TGV circulant entre Dunkerque et Paris a percuté un poids lourd transportant du matériel militaire. Le train comptait 243 passagers à bord. Tous ont été évacués et pris en charge par les secours. Deux personnes sont grièvement blessées et 11 légèrement. Le conducteur du train, quant à lui, est décédé. Plusieurs lignes ferroviaires de la région sont interrompues. La SNCF a affrété des bus pour transporter les passagers non blessés. Le conducteur du camion a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Place au film d'animation dans les cinémas rennais cette semaine. Le Festival National du Film d'Animation fait son retour pour sa 43e édition. Et quoi de mieux pour commencer qu'une avant-première ? À 20h30 donc aura lieu au TNB la projection Bouchra de Oriane Barki et Meriem Benani. Vous avez jusqu'au 12 avril pour venir découvrir les pépites de la création animée française au programme projection, atelier et rencontres en présence de réalisateurs, et ce, dans toute la métropole.
Et on me dit d'ailleurs dans l'oreillette qu'une émission spéciale de 6h avant minuit aura lieu ce vendredi 10 avril en partenariat avec l'AFCA à l'occasion du festival. Branchez-vous donc soit à 18h sur le 88.4 FM pour tout savoir sur l'événement, ou venez même assister à l'enregistrement en direct qui se passera à 16h au café du TNB. Merci Anaë pour ton flash et Ulrich pour ton papier.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La semaine dernière, Romane recevait dans nos studios l'historien Hugo Melchior pour parler grève, colère, caddie et mammouth. Tout de suite, c'est l'interview.
Alors, il y a 51 ans, en 1975 à Rennes, le centre Alma à Rennes était au cœur d'une grève inédite. Caddie et caissière bloquaient le supermarché Mammouth et personne ne pouvait faire ses courses dans cette enseigne qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le début d'une grève qui va durer 18 jours, essentiellement conduite par des caissières. Pour en parler, nous recevons Hugo Melchior, historien rennais, habillé d'une veste en cuir au col molletonné. Il est chercheur en histoire contemporaine et membre de la Société française d'histoire politique. Il s'est plongé dans les archives de cette lutte et sortira un livre le 17 avril prochain, Les Caddies de la colère. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Est-ce que pour commencer, tu peux nous replonger dans ce début septembre 1975 et à quoi ressemble le centre commercial d'Alma à ce moment-là ?
Bah écoute, il faut imaginer le centre Alma donc à partir du 1er septembre 1975 avec à l'entrée de l'hypermarché donc Mammouth, voilà, donc l'ancêtre de Carrefour, hein, qui existe toujours aujourd'hui, donc avec un barrage de caddies monumental qui a été érigé par une minorité de grévistes en ce 1er janvier. Donc en fait, pour comprendre la grève du 1er septembre, qui commence au 1er septembre 1975 et qui va durer 18 jours, il faut se rappeler que le 1er janvier 1975, tu as un nouveau directeur, un nouveau jeune directeur qui s'appelle Georges Sercelier, qui a fait ses classes au carrefour de Mérignac et qui arrive avec certaines méthodes, tu vois, avec un management très directif, très autoritaire, management despotique, on peut dire, ce qu'il a connu en fait à Carrefour. Mérignac, il veut reproduire, à l'époque il était chef de rayon en fait, donc c'est vrai que pour lui, venir en Bretagne, hein, c'était pas sa petite patrie, hein, donc il arrive en début 75, le 1er janvier, et donc il veut en fait reproduire à Mammouth Alma, ce qu'il a connu en tant que chef de rayon à Carrefour Mérignac. Bon, sauf qu'il va se retrouver rapidement confronté à la section syndicale CFDT en fait, hein, qui existe depuis 1971, qui est une section syndicale très combative et qui n'a pas du tout l'intention de se laisser faire et de le laisser agir en toute latitude.
Justement, on va écouter le témoignage de Ghislaine Ménage de la CFDT qui a été recueillie sur l'INA.
La première cause, ce sont les salaires. Nous avons des salaires très, très dérisoires. Nous demandons 2700 francs minimum. Bon, c'est ce qui est nécessaire pour vivre actuellement. Les conditions de travail également. Bon, les clients peuvent voir, par exemple, une caissière, c'est toujours faire des travaux répétés. Nous sommes beaucoup de femmes dans ce magasin et bon, tous les travaux sont déqualifiés, inintéressants, mal payés. Et ils en profitent. Bon, il y a du chômage. Ils savent très bien que les gens ont peur de perdre leur place.
Ghislaine Ménage vient de le dire, dans cette période où le chômage est important, on a peur de perdre son travail. Alors qu'est-ce que ça raconte de cette grève où on prend un risque ?
Mais en fait, par rapport à la question effectivement du chômage, la question en fait des licenciements en fait, tu vois, qui interviennent dès le mois d'avril. Tu as une série donc, de licenciements, tu as une série aussi d'avertissements hein, qui sont adressés. En fait, dès qu'il arrive le 1er janvier 1975, Georges Sercelier, le nouveau directeur, adresse un avertissement au délégué syndical. D'accord, hein, au délégué syndical Recourcet, Michel Recourcet. Tu vois, qui est décorateur, donc c'est une manière pour lui d'affirmer hein, son antisyndicalisme, en fait. Voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est un syndicat maison, tu vois, totalement inféodé, en fait, à la direction, mais par contre, un syndicat de lutte des classes, tel qu'elle était la section syndicale CFDT, pour lui, c'est juste insupportable. D'accord. Donc il doit composer, en fait, avec cette contrainte syndicale, tu vois. Et donc là, ce que dit Ghislaine, effectivement, donc, c'est la question, effectivement, donc, des licenciements qui interviennent dès le mois d'avril, il y en a d'autres qui interviennent à la fin de l'été, et donc, en fait, tu vas avoir une sorte de ras-le-bol, en fait, général. Et donc, on a un jeune directeur qui fait assez rapidement l'unanimité contre lui. Donc après, la question, c'est comment est-ce qu'on se met en mouvement hein, et comment est-ce qu'on arrive en fait, à lui mettre un stop en fait, à ce jeune directeur. Donc en fait, tu vas avoir à partir du mois de juillet des salariés qui vont aller voir les délégués syndicaux, hein, les délégués du personnel et qui vont leur dire bah, soit c'est Georges Sercelier, soit c'est nous en fait. Voilà, on ne va pas continuer comme ça à courber les chines, hein, à subir. Il est là depuis 6 mois et on n'en peut déjà plus parce qu'il est le directeur. Il se permet en fait, d'engendrer beaucoup de souffrance en fait. En fait, c'est quand même quelque chose qui revient très souvent, c'est management par la peur et c'est beaucoup de souffrance hein, du côté des employés. Donc après, c'est être capable justement de franchir le Rubicon, n'est-ce pas, de la mise en mouvement, de l'action collective. Et c'est ce qui va se faire à partir du 1er septembre. Mais au départ, c'est vraiment une demande hein, des salariés. Voilà. Alors après, on va voir que finalement, c'est seulement une minorité hein, qui va oser, tu vois, se mettre en mouvement et jusqu'à suspendre hein, l'ordre commercial, hein, l'ordre marchand, avec justement ce blocage, cette paralysie du magasin par le truchement d'un barrage de caddies.
Et cette grève est aussi inédite parce que c'était majoritairement des femmes qui se sont manifestées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait raison de préciser ça. Donc, il faut bien voir que dans la grande distribution, hein, c'est une majorité effectivement d'employés EES, n'est-ce pas ? Avec hein, ce secteur clé qui est le secteur caisse, avec à l'époque hein, que des femmes. Hein, c'est pas du tout un secteur mixte hein, comme ça peut être encore le cas, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Donc effectivement, les caissières, elles vont jouer un rôle tout à fait déterminant. Et Ghislaine, effectivement, qui elle d'ailleurs a un statut un peu particulier parce qu'elle est étudiante aussi à côté, tu vois. Donc elle a continué des études supérieures, ce qui est pas le cas de l'immense majorité hein, hein, de ses collègues, n'est-ce pas. Donc faut bien se rendre compte que la plupart hein, des employés EES, mais plus largement, hein, c'est plutôt des jeunes personnes, hein, des jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans, hein, pour qui Mammouth bah, c'est souvent le premier, voire le deuxième travail, et souvent des personnes qui ont arrêté leurs études avant le bac. Hein, tu vois, et même pour certains qui n'ont pas eu leur brevet, qui ont commencé à travailler à 15-16 ans. Certains ont des CAP, d'autres, voilà. Mais c'est quand même plutôt ça. De ce point de vue-là, Ghislaine, elle détonne, hein, de ce point de vue-là. Mais elle va jouer un rôle tout à fait déterminant. Et elle va être aussi, pendant cette grève, un peu le porte-parole aussi hein, de ses collègues femmes aussi. Tu vois, donc ça, c'est tout à fait intéressant.
La difficulté pour certaines de se faire voir, qu'est-ce que ça dit de la place des femmes dans le monde du travail à ce moment-là ?
Bah écoute, moi je dirais que pendant la grève, et c'est ce que j'ai voulu aussi développer hein, dans mon livre, c'est de montrer que, et il y a d'autres collègues, hein, historiennes notamment, hein, qui ont montré ça bien avant moi, sur le fait que faire grève pour une femme, ça implique pas la même chose que pour un homme. Hein, les femmes sont confrontées à des contraintes spécifiques, hein, et notamment pour ces femmes qui pouvaient être en couple, mariées, hein, c'est la contrainte maritale aussi, la garde des enfants, alors que pour leurs collègues masculins qui faisaient grève, ils se posaient pas forcément ces questions, tu vois. Je veux dire, que ce soit Loïc Richard, qui est délégué du personnel et un des cofondateurs de la section syndicale CFDT, hein, de Mammouth, ou Michel Recourcet, dont je t'ai parlé, qui est délégué syndical, eux, ils peuvent faire grève en toute latitude, tu vois, ils se posent pas la question. Par contre, effectivement, pour les femmes, pour certaines d'entre elles en tout cas, ça implique pas mal de choses. Donc comment elles vont réussir justement à concilier leur vie familiale et la volonté de s'investir, hein, d'être une militante de la grève à plein temps, autant que faire se peut. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Donc c'est vrai que la grève, pour les femmes, pour ces femmes, pour ces employés, caissières ou autres, ça va être aussi un moment où elles vont pouvoir se retrouver, où elles vont pouvoir aussi mettre en mots, hein, leurs souffrances, leurs problématiques de femmes également, tu vois, hein, se confier, prendre la parole en assemblée générale également, pouvoir échanger aussi avec la clientèle, hein, avec les clients, parce que justement, je trouve qu'une des grandes forces de cette grève et une des grandes réussites, c'est d'avoir réussi justement à impliquer la clientèle, tu vois. Parce qu'on parle de contraintes clients, mais c'est comment ils vont réussir justement à retourner la clientèle, hein, et à créer vraiment un vrai mouvement de solidarité populaire, en fait. En fait, tu as un premier barrage qui est le barrage de Cadi, et tu vas avoir un deuxième barrage qui est un barrage populaire avec justement l'implication de la clientèle. Donc, l'objectif, ça va être effectivement de convaincre la clientèle du bien fondé de cette grève. C'est pour ça que ce barrage de Cadi ne va pas rester sans parole. Très rapidement, dès le premier jour, dès le deuxième jour, tu vas avoir ce qu'on appelle des dazibao. Hein, des dazibao, ça veut dire des grandes affiches, tu vois, sur lesquelles les grévistes vont pouvoir mettre en mots leurs souffrances, leurs revendications, dire pourquoi ils ont décidé effectivement de bloquer la vente et pourquoi est-ce qu'on s'en retrouve dans cette situation effectivement de suspension de l'ordre commercial.
Il y a eu des affrontements, des blessés lors de cette grève. Jusqu'où sont montées les tensions ?
En fait, le 1er septembre, donc t'as, voilà, ce barrage de Cadi, le blocage de la vente, n'est-ce pas ? Et le mardi, le lendemain, hein, pendant la nuit, tu vas avoir Georges Sercelier avec des gros bras du magasin, et puis également de l'ASER, hein, la Société économique de Rennes, qui était en fait l'entreprise propriétaire du Mammouth, d'accord ? Et ils vont débouler vers minuit, une quinzaine, pour justement libérer le magasin, tu vois, et en finir justement avec cette grève, hein, la tuer dans l'œuf. Bon, sauf qu'ils pensent se retrouver seulement face à quelques femmes grévistes, tu vois, sauf qu'en fait, heureusement, t'as une partie du service d'ordre de la Ligue communiste révolutionnaire, tu vois, qui est présent. Et donc, il va avoir, quelques interactions violentes, et les grévistes et leurs amis, comme je les appelle, vont réussir à mettre en fuite, hein, Georges Sercelier et les autres. Donc la grève va pouvoir tenir, et va tenir 18 jours. Mais ce qui fait que pour protéger justement ce barrage, hein, de Cadi et assurer la pérennité du blocage du magasin, tu vas avoir une occupation nocturne, hein, du magasin, une occupation H24, et même l'ancien maire de Rennes, Edmond Hervé, va venir passer une nuit. Il n'était pas encore maire à ce moment-là, mais il va passer une nuit avec les grévistes pour témoigner de sa solidarité avec celles et ceux qui luttent.
On va écouter tout de suite le témoignage du directeur du Mammouth en 1975, toujours sur l'INA.
Ces propositions ont été acceptées par les syndicats CGT, CFDT du siège, et pour le Mammouth, par le syndicat FO. En conséquence, nous ne comprenons pas les raisons qui nous opposent avec la CFDT. Nous considérons que cette action engagée est nuisible et porte une atteinte délibérée au droit du commerce, à la liberté du commerce et du travail. Que plus de 200 personnes aujourd'hui sont à l'intérieur du magasin, ne demandent qu'à travailler et à satisfaire les besoins de la clientèle.
On vient d'entendre le directeur, Georges Sercelier, parler d'une grève nuisible. Comment les grévistes reçoivent ce type de discours ?
Très très mal, hein. Ils considèrent effectivement dès le départ, hein, que c'est un peu dans la continuité, hein, de ce qu'il avait pu montrer, hein, lors des 9 premiers mois. Hein, c'est un jeune directeur droit dans ses bottes, qui ne supporte pas la contradiction. Qui encore une fois déteste les syndicats de lutte des classes, un peu trop combatifs. Et effectivement, dès le départ, ça va être tant que vous ne libérez pas le magasin, tu vois, tant que vous ne permettez pas à la clientèle de pouvoir pénétrer de nouveau dans la surface des ventes, eh bien, il n'y a pas de négociation. Et ça va être le cas également pour la société économique de Rennes. Bon, sauf que, je te dis, hein, et grâce notamment à l'implication populaire, à ce mouvement de solidarité qui va se mettre en place, qui va notamment donner lieu à une belle fête populaire le dimanche. Après 7 jours, tu vas avoir 1500, 2000 personnes qui vont se réunir sur le parking du Centre Alma pour témoigner de leur solidarité. Donc c'est une grève qui va vraiment réussir, justement, à se rendre populaire, à se rendre intelligible. Parce qu'encore une fois, je pense qu'une très grande majorité de Rennais et de Rennaises, et même au-delà, avaient compris combien les salariés du Mammouth avaient raison de faire grève et au regard justement de ce qu'ils avaient eu à subir les 9 premiers mois, ce qu'ils revendiquaient en termes de salaire, en termes également de temps de travail, de conditions de travail. C'est vraiment de pouvoir aller au travail sereinement, tu vois, et encore une fois ne pas avoir à subir ce management par la peur qui vraiment faisait que beaucoup d'employés venaient au travail la boule au ventre. Et ça, c'était plus l'impression d'être tout le temps hyper contrôlé, en fait, par Georges Sercelier qui était là à traquer la moindre petite déviance, tu vois. Donc ça, c'était vraiment devenu intolérable. Donc c'est vraiment par rapport à ce sentiment d'intolérabilité qu'elles ont voulu se mettre en mouvement.
Est-ce que cette grève a laissé une trace dans l'histoire sociale rennaise?
En tout cas, elle fait partie de ces grèves emblématiques, et d'autant plus parce que le centre Alma, on a du mal aujourd'hui évidemment à l'imaginer, parce qu'aujourd'hui c'est très largement banalisé, les centres commerciaux, mais lorsque le centre Alma est inauguré en avril 71, c'est une révolution. À l'échelle du pays rennais et même au-delà. C'est le troisième plus grand centre commercial en France, à ce moment-là, en 71. Donc, forcément, je te dirais, lorsque le centre Alma éternue, il y a tout Rennes qui s'enrhume, quoi, de ce point de vue-là. Et donc, le fait comme ça, qu'il y ait ce barrage de caddie monumental, qu'il y ait cette occupation de la galerie marchande et du centre Alma qui reste ouvert. Et lorsque c'est intéressant aussi, il faut quand même le noter, c'est le fait que cette grève en fait, va faire des petits. Il va y avoir un phénomène de contagion. Donc en fait, le 1er septembre 1975, donc, tu as Mammouth qui se met en grève, et tu as l'autre hypermarché, Printemps, qui existe toujours d'ailleurs, qui se met en grève 6 jours après. Donc tu vas avoir comme ça les deux hypermarchés qui vont être en grève. Et donc tu vas même d'ailleurs avoir deux manifestations communes, et même que ce soit d'ailleurs au Blône. Ils vont avoir comme ça justement la bonne idée, non pas de manifester dans l'hypercentre comme ils le font habituellement, mais justement dans le quartier populaire, à proximité, pour aller interpeller directement la clientèle avec une banderole, Mammouth Printemps, le combat de tous. Voilà, ça veut dire que cette grève, elle a aussi une dimension universelle au regard des revendications qu'elle porte et l'idée qu'elle défend une certaine idée du travail, en fait, et une certaine idée de la justice au travail.
Hugo, tu es chercheur en histoire. Pourquoi t'es renseigné sur cette grève précisément ?
Écoute, moi, je suis toujours à la recherche de sujets un peu originaux. J'avais déjà écrit un premier livre sur la grève des étudiants en médecine de Rennes, juste à côté, en 1973, une grève aussi qui avait beaucoup marqué. T'imagines des étudiants en médecine qui se mettent en grève à l'époque contre la médecine de profit, contre les déserts médicaux, donc en réaction aussi portée par des problématiques encore d'actualité, contre le sous-équipement hospitalier en Bretagne. Et en fait, c'est en lisant l'excellent livre que je recommande du grand sociologue Éric Neveu, Les 68 arts ordinaires. En fait, il interroge essentiellement d'anciens militants gauchistes, bretons et principalement rennais. Et il interroge Guylaine, justement, Guylaine Ménage. Donc, c'est en lisant ce livre que j'apprends qu'il y a eu cette grève, au Centre Alma pendant 18 jours. Et donc, ça m'interpelle. Je trouve ça intéressant. Sans être un grand spécialiste, il en demeure pas moins que j'avais jamais rien lu sur ces grèves dans la grande distribution, en fait. Et donc, j'ai voulu très modestement, avec cette monographie locale, participer au comblement de ce vide historiographique, parce que dans les années 68, dans les hypermarchés, dans les supermarchés, on a fait grève, en fait. On a lutté, d'accord ? Donc, c'est pas que le tout marchand. Il y a aussi des femmes et des hommes et des organisations syndicales qui ont lutté contre le management despotique pour revendiquer de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, pour interpeller la clientèle également, qui ont également lutté contre une certaine forme de consumérisme également. Donc c'était vraiment des syndicats aussi qui portaient une certaine vision politique tout à fait affirmée, très anticapitaliste en réalité. Donc moi je trouvais ça tout à fait intéressant, en partant d'un exemple local, de pouvoir participer modestement à l'écriture de cette histoire qui reste encore très largement à écrire, parce qu'encore une fois, des grèves dans la grande distribution dans les années 68, il y en a eu des dizaines à Rennes, mais par exemple, 3 ans auparavant, tu avais eu une grève au Mammouth de Saint-Brieuc en décembre, qui avait duré 10 jours, et pareil, qui avait été aussi, donc 6 mois après la grève du juin français, hein, tu sais. Et donc pareil, ça avait aussi eu beaucoup, beaucoup d'impact, donc je trouve que c'était tout à fait intéressant de raconter, et aussi, encore une fois, parce que c'est, comme tu l'as dit très justement, un secteur d'activité où il y a une majorité de femmes, hein, très largement. Au Mammouth d'Alma, c'était 80% d'employés, hein, EES, donc c'est pour ça qu'on peut parler de grève active à hégémonie féminine.
Ton livre fait 400 pages et comprend 40 photos et 5 entretiens. On peut retrouver quoi, par exemple, comme entretien ?
Alors, bah justement, bah les entretiens que j'ai interrogés, 15-20 personnes en tout, donc d'anciens et d'anciennes grévistes. Et j'ai même, une fois n'est pas coutume, parce que je trouve qu'on ne le fait pas suffisamment, mais j'ai donné la parole aussi à des femmes qui n'avaient pas fait grève, qui étaient, qui comprenaient le pourquoi de la grève, mais qui elles-mêmes ne se sont pas mis en mouvement. Ce qu'il faut bien voir aussi pendant cette grève, c'est que le magasin était paralysé au sens que la clientèle n'a pas pu consommer, mais les grévistes ont eu la bonne idée de ne pas empêcher leurs collègues non grévistes de travailler. Donc en fait, ils passaient, tu sais, par la porte du personnel et ils allaient vaquer à leurs occupations, mais sans clients. Donc on retrouve à la fin du livre une série d'entretiens avec Guylaine, où voilà, je m'intéresse un peu au parcours de vie, aux trajectoires en fait. Donc c'est vraiment de la socio-histoire, comme j'avais fait dans mes précédents ouvrages. C'est vraiment de l'histoire participative. Je pense pas qu'on puisse écrire, de façon sensible, une histoire on ne donne pas, autant que faire se peut, la parole à celles et ceux qui l'ont faite. Donc c'est ce que j'ai voulu faire en partant à la recherche de ces anciens acteurs et actrices.
Eh bien, merci beaucoup Hugo Melchior pour ta présence. Je rappelle que tu es chercheur en histoire contemporaine et membre de la Société française d'histoire politique et que tu sortiras ton livre sur le sujet « Les caddies de la colère » le 17 avril prochain.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci à vous. Où est-ce qu'on pourrait retrouver votre livre d'ailleurs ?
Écoute, on va le trouver partout en librairie à Rennes, librairie Comment Dire, chez Le Fayère, L'Encre de Bretagne, à Planétio également, et puis partout en France. Donc j'ai eu la chance de trouver un éditeur, Jean-Marie Guatter, qui m'a fait confiance. Et voilà, le fait aussi qu'il y ait des photos. Donc voilà, c'est vraiment qu'il y ait plusieurs portes d'entrée pour ce livre. Donc j'espère que ça intéressera aussi, les jeunes générations également.
Très bien. Bah, merci. N'oubliez pas, ça sort le 17 avril.
Merci encore à Roman et Hugo Melchior pour cet entretien fort intéressant.
6 heures avant minuit.
Ce soir, pour notre plus grand malheur, pas de chronique fake news, désolé. Nous vous épargnons donc des inepties les plus populaires du moment. Penchons cependant notre oreille sur notre répondeur parce que je crois que ça clignote.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
La radio sauvage.
J'arrive pas à arrêter de dire 6-7.
Coucou l'équipe, vu que Héloïse n'est pas là et que c'est Sylviane qui prend l'antenne de l'émission 6 heures avant minuit, je fais des gros bisous parce que franchement Sylviane, on t'adore et pour te dire que je suis bien contente que ce soit toi à l'antenne de Syllab et puis aussi sur l'antenne de Radio Boa parce qu'on est mardi aujourd'hui et puis vu que le mardi y a deux diffusions deux radios associatives, donc celle de Syllab et puis celle de Radio Boa bien sûr. Concernant les infos locales sur Rennes ou sur Saint-Malo, sur Saint-Malo, je crois que j'ai vu récemment sur la page Facebook de la Nouvelle Vague qu'il y a le concert de Yael Naïm. Je pense que tout le monde connaît son nom, c'est celle qui a chanté New Soul en 2007, son célèbre tube qui va fêter bientôt ses 20 ans. Donc, vu que Yael Naïm a sorti un nouvel album, je crois que c'était en février ou en janvier, elle sera en concert le jeudi 16 avril 2026 à la Nouvelle Vague à Saint-Malo. Et puis, elle sera pas seule, elle sera accompagnée de Woody, qui est une artiste parisienne que j'ai découvert ça récemment. Sur mon canapé en train d'écouter les nouveautés de la semaine, c'est vraiment pas mal, si vous voulez voir ces deux artistes à la Nouvelle Vague à Saint-Malo, c'est le jeudi 16 avril 2026. Alors, concernant bien sûr Rennes et ses alentours, je crois que j'ai vu ça aujourd'hui. Donc, au Jardin Moderne, il y a l'équipe de Lisa, celle qui a fondé son propre label de disques, qui s'appelle Cartel Maison de Disques. Avec le Jardin Moderne, ils vont faire un atelier avec tous les artistes féminins, minorités de genre, donc voilà. Et là, je crois que je suis sûr que c'est des inscriptions. Donc voilà, si vous êtes artiste, musicienne de Rennes ou d'ailleurs, et ben, vous pouvez vous inscrire directement sur le site du Jardin Moderne pour participer à cet atelier qui sera le samedi 23 et le dimanche 24 mai au Jardin Moderne à Rennes. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai comme info d'actualité locale en Bretagne et puis un peu sur Rennes, donc voilà. Allez, je vous embrasse très très fort et puis ben j'espère que je vais repasser dans la semaine s'il faut, donc voilà. Allez, gros bisous à vous, ciao.
Merci à cet admirateur secret et à la fois chroniqueur et plutôt pour cette analyse complexe de la situation géopolitique en cours. Voilà, 6-7 exactement. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours sur nos contenus, de vos idées de reportages, de sujets. Bref, sentez-vous libre de nous laisser un message au 02 30 96 25 35. À la technique ce soir, Maud et Lisa, merci à vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour un plateau en direct du festival Mythos. Bonne soirée sur Silab.
La radio sauvage.
Et le rythme.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Silab,
la radio sauvage.